physique, Père Philippe, 1er décembre 1983 à Saint-Joseph.
Une petite question qui est astucieuse et qui est très difficile à préciser. Pouvez-vous expliquer ce qu'est un a priori ? Très difficile, ça. Normalement, ce qui est a priori, c'est justement ce qu'on accepte sans aucune explication, comme quelque chose, non pas d'évident. Parce que l'évidence n'est pas un a priori. Mais souvent, vous voyez, là c'est ça qui est très curieux, c'est parce que il y a l'a priori pour les autres et l'a priori pour celui qui vit. Alors, prenons un exemple où un philosophe reconnaît que sa philosophie a des a priori, les formes a priori chez Kant. Il reconnaît qu'il y a des formes a priori. Il reconnaît que ces formes a priori sont des déterminations fondamentales de l'intelligence données naturellement, qui sont donc la forme de l'intelligence. Est-ce que nous, la découverte d'une puissance, d'une faculté, est à l'a priori ? Quand je découvre qu'il y a en moi une faculté qui s'appelle le nous, l'intelligence. Quand je découvre qu'il y a en moi une faculté qui s'appelle la volonté, est-ce que c'est un a priori ? Je dis non, ce n'est pas un a priori. C'est la découverte d'un fait, ma nature humaine. La nature humaine est-elle un a priori ? Pour celui qui est à côté, vous voyez, pour celui qui n'accepte que le donné expérimental immédiat dans la perspective d'un Merleau-Ponty, de la féminologie, la nature est un a priori. Ah, vous acceptez la nature ? Mais c'est un a priori. Je dis non, c'est pas un a priori, c'est la découverte d'un principe. Vous voyez, c'est ça qui est très très difficile. C'est qu'on se bat constamment, les uns par rapport aux autres, en s'envoyant à la tête, vous commencez par un a priori, vous acceptez un a priori. Alors, ce n'est qu'à l'intérieur d'une même philosophie qu'on peut essayer de comprendre un a priori. Parce que si je me place alors dans la perspective, vous voyez, de tous, je dirais forcément, quelqu'un qui n'a pas découvert ce qu'est l'induction dira que tout principe est un a priori. Je dis non, le principe n'est pas un a priori, c'est la découverte de l'intelligence de quelque chose qui s'impose comme une réalité qui m'est donnée. Pour moi, la réalité n'est pas un a priori. Que vous soyez là en face de moi, est-ce que c'est un a priori ? Pas pour moi. C'est pas un a priori, c'est un fait. Le fait existentiel n'est pas un a priori, c'est reconnaître la réalité. Ou autrement, alors vous identifiez la réalité avec un a priori. Identifier la réalité avec un a priori, à ce moment-là, tout est a priori. Donc c'est la suppression d'a priori. Si tout est a priori, si le fait que vous reconnaissez que tout est a priori, alors, l'a priori c'est pas ça, c'est reconnaître une réalité que je n'explique pas. Vous voyez ? C'est une réalité que je n'explique pas, une détermination que je n'explique pas, que j'accepte comme une hypothèse, comme un a priori. L'hypothèse est un a priori momentané jusqu'au moment où je l'expliquais. Tant que je n'ai pas expliqué, c'est un a priori. Je pars de là, j'ai tout à fait le droit de faire ça, mais c'est momentané. Je l'expliquerai un jour, je dépasserai l'hypothèse. Et en dépassant l'hypothèse, je dépasse un a priori. Mais c'est difficile hein, de définir un a priori. Alors moi je crois que dans une philosophie donnée, alors nous nous plaçons dans une perspective philosophique réaliste. Je ne peux pas faire autrement. Je Je ne peux pas expliquer tout. Je me place dans une perspective de philosophie réaliste. Je dis, dans une perspective de philosophie réaliste, je pars d'une expérience et je dis que l'expérience n'est pas un a priori. Pourquoi ? Parce que c'est la reconnaissance d'une réalité qui existe. La reconnaissance d'une réalité qui existe n'est pas un a priori. Pourquoi ? Parce que la réalité qui existe s'explique par elle-même. Elle a sa propre intelligibilité. Elle n'est pas une hypothèse. Elle est une donnée de fait. Est-ce que je suis un a priori pour moi-même ? Je transporte un a priori. Non, je ne suis pas un a priori pour moi-même, puisque j'existe et je peux constater avec évidence que j'existe. Alors, ce qui est évident et qui a sa propre intelligibilité par lui-même n'est pas un a priori. L'a priori, c'est quelque chose qui n'est pas explicable par lui-même, donc qui n'est pas évident par soi, et que je ne peux jamais expliquer. Et que je ne pourrai jamais expliquer. Donc c'est quelque chose d'inévident. Et que j'accepte comme quelque chose d'inévident. Pas comme un fait. Pas comme un fait existant. Mais comme quelque chose que j'accepte et à partir de quoi je vais expliquer. Cherchez un peu la définition d'a priori. Ce sera intéressant. Voir qu'est-ce qu'on ne peut pas définir du reste. Hein. Puisque c'est quelque chose qui limite l'évidence. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Je crois qu'il faut distinguer l'a priori et l'évidence. Ce qui est évident s'impose à moi comme un fait existant ou comme un principe. Ce qui s'impose à moi comme un principe est intelligible, c'est évident. Un fait, il a son existence, il a son évidence de fait existentiel. Donc ce n'est pas un a priori. L'a priori, c'est ce que je ne comprends pas et qui s'impose à moi, mais je ne le comprends pas. Et qui vient comme une limite. Tout a priori limite mon explication. Tandis qu'au contraire, l'évidence ne limite pas l'explication. Quelle différence y a-t-il entre un a priori et le conditionnement? Le conditionnement limite. L'a priori limite. Il y a quelque chose là qui est commun, n'est-ce pas, à l'explication. Tous les deux sont des limites. Mais la différence, c'est que le conditionnement va s'expliquer par la réalité qu'il conditionne. Donc le conditionnement est toujours relatif à un autre, alors que l'a priori n'est pas relatif à un autre. Donc le conditionnement n'est pas un a priori. Oui. Je suis conditionné par mon poids. Je pèse 120 kilos. Je suis conditionné par mon poids. C'est sûr. Parce que si je dois passer sur une passerelle qui ne peut recevoir que les 60 kilos, je n'ai pas le droit de passer. Je suis conditionné. Un camion est conditionné par sa hauteur. Et quand il doit passer en dessous, défense de passer si vous mesurez trop. Parce que si vous passez, vous allez toucher le sommet. Vous êtes conditionné par ça. Vous êtes conditionné par votre quantité. Votre quantité vous conditionne. Je tiens une place. Pendant ce temps-là, l'autre ne peut pas se mettre à ma place. Je suis conditionné par ça. Je suis conditionné par mon poids, je suis conditionné par ma taille, je suis conditionné par ma petitesse exige de prendre un sycomore pour pouvoir m'élever, tandis que ma grande taille permet de dépasser tout le monde. Et la foule me permet de... personne n'est au-dessus de moi, je dépasse. J'ai des échasses perpétuelles et naturelles. Je suis conditionné parce que avec une rafale, c'est ma tête qui prendra le premier. Tandis que les autres, non. Donc je suis conditionné. Conditionné par ma quantité. Je suis conditionné par ma quantité. Ma quantité n'est pas un a priori. Elle va dire, l'a priori, je pèse 120 kilos. C'est pas un a priori. C'est un fait évident. Et tout le monde peut le constater. Mettez-vous sur la bascule, vous verrez 120 kilos. C'est pas un a priori, quand même. Hein. Vous n'allez pas dire que peser 120 kilos, c'est un a priori. Mais c'est peut-être là où c'est mieux. Que c'est pas un a priori. C'est une donnée. Et une donnée évidente. Une donnée évidente n'est pas un a priori. Parce que vous pesez 120 kilos. Ben, prenez une cure, au bout d'un certain temps, passez un bon carême, et puis vous peserez un peu moins, vous serez un peu moins conditionné. Et vous pourrez passer par une porte plus étroite. Tandis qu'autrement. Vous voyez, alors, c'est par là que vous pouvez saisir hein, le conditionnement. On est conditionné par sa quantité. Ça. On est conditionné par toujours la quantité, le corps. Le corps nous conditionne. On est conditionné par notre sensibilité plus ou moins grande. Mais ce n'est pas un a priori. De quel supérieur Aristote parle-t-il ? De quelle expérience Aristote parle-t-il lorsqu'il dit en philosophie première, alpha premier, 980b28, c'est de la mémoire que provient l'expérience pour des hommes. En effet, une multiplicité de souvenirs de la même chose, on arrive à constituer finalement une seule expérience, traduit tricot, empeiria, en grec, expérience. Bon, Aristote veut simplement montrer que l'expérience ordinairement implique une répétition de la mémoire. C'est vrai. Je touche cette table. En touchant cette table, j'ai l'expérience de la table. Et en même temps qu'il y a l'expérience de la table, il y a une quantité d'expériences qui sont là présentes. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est que ma sensibilité implique toute une quantité d'expériences. Et grâce à ces expériences qui peuvent servir négativement, comme elles peuvent servir positivement. Mais j'ai une sensibilité qui s'affine par l'expérience. Et alors, il y a une espèce de relativité qui se fait. Et l'expérience implique tout cela. C'est sûr qu'ordinairement, on a une acuité de regard plus grande si on a une expérience plus grande de la lumière et de la diversité des lumières. On saisit mieux. On saisit mieux qualitativement grâce à cette multiplicité. C'est ça les souvenirs qui sont présents à toute expérience. Donc toute expérience implique des souvenirs, implique la mémoire. C'est pas plus que ça. Donc on pourrait dire que la mémoire conditionne mon expérience. C'est très vrai. Elle conditionne l'intensité de mon expérience. Si j'ai très peu d'expérience, ordinairement, mon expérience sera beaucoup moins forte. Tandis que si j'ai de multiples expériences antérieures, l'expérience que j'ai actuellement est beaucoup plus intense. Si je le veux, parce que je peux aussi m'arrêter au conditionnement. Oui. Mais si vraiment je veux être attentif à la réalité qui se donne à moi, la multiplicité d'expériences que j'ai avant peut m'aider beaucoup. Alors continuons le fait de l'interrogation. Je vous avais dit qu'il fallait, et ça il y a une chose très importante. Alors là vous voyez, il y a des petites enquêtes, ceux qui veulent s'intéresser à l'interrogation, il y aurait un travail très intéressant à faire, un travail que tout le monde peut faire. Qu'est-ce que c'est que l'interrogation? Interroger sur l'interrogation. Et voyez, dans Platon, le premier Platon, Socrate qui interroge. Et puis, dans Aristote, quelle est l'interrogation dans Aristote ? Il y a un petit travail à faire. L'interrogation en philosophie spéculative, interrogation en philosophie pratique. Bon. Je vous donne, moi, le petit résultat d'une enquête facile à faire. Aristote, quand il s'agit de la science, dit toujours qu'il y a quatre grandes interrogations. L'intelligence interroge de cette manière. Alors, cherchez s'il y en a d'autres. On ajoute une cinquième roue au char, et c'est la roue de l'expérience sur le modèle de quoi ? Ce qui montre bien que cette cinquième interrogation n'a pas la pureté des autres, et qu'elle est déjà peut-être un tout petit peu liée au comment, ce qui est très vrai. Mais elle n'est pas le pur comment, c'est autre chose. Le pur comment n'est pas toujours celui sur le modèle de quoi. Sur le modèle de quoi? C'est les réalités qui sont faites en série. Quel est le premier type? Quand vous visitez un musée, vous avez l'école. Vous connaissez très bien l'école. Sur le modèle de quoi? Alors, au bout d'un certain cycle de 100 mois, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Il pourrait y en avoir indéfiniment. L'école. La scolastique est tombée dans l'école thomiste. Hein? L'école. Alors, tous répètent la même chose, indéfiniment la même chose, avec des petites variantes, de petits rien du tout d'individuation, des petites molécules nouvelles qui s'ajoutent. Mais c'est l'école. Vous voyez, l'école, c'est très très bien l'école. Mais ça peut être très très dangereux. Ça peut très bien être dangereux, parce que les gens répètent indéfiniment. Parce qu'on a dit ça. Alors, vous voyez, là, le modèle. L'autorité peut devenir un modèle. Et l'autorité, quand elle devient un modèle, au plan spéculatif, vous savez bien, l'autorité est la dernière des raisons. Et c'est pour ça qu'une école qui s'appuie sur l'autorité au point de vue spéculatif, au bout d'un certain temps, devient une école maternelle. Parce que l'école maternelle a un modèle, c'est très bien, c'est de l'ordre de l'éducation. Mais au point de vue de l'intelligence, c'est pas très éveillé. Et alors l'autorité peut très bien, et c'est très dangereux pour ça. Il faut soi-même essayer de réfléchir avant d'ajouter l'autorité. Il faut être très attentif, il ne faut pas trop vite mettre l'autorité en vedette. Vous voyez? Parce que c'est agaçant. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas trop vite. Il faut plutôt garder le silence. Oui, je cherche. Avec vous. Plutôt que de dire, on a dit ça, c'est ça la vérité. Attention, vous agacez les gens en disant ça. Parce que vous mettez une cause formelle là où il ne faut pas en mettre. Dans l'ordre de la spéculation, ayant plutôt cette humilité. Quand on n'a pas découvert soi-même, tant qu'on n'a pas découvert soi-même, ne répétons pas trop. C'est agaçant et ça n'aide pas. Alors il faut plutôt dire, je cherche. Oui, je cherche. C'est un sujet très intéressant, très difficile. Oui, on pourrait regarder. On peut toujours, dans tous les sujets, on a des petites inventions. Alors on peut orienter. Mais il ne faut pas trop vite donner une solution en disant, c'est ça. On a dit ça. C'est l'autorité. Oui, ça c'est très très important. La cause formelle peut être un été noir. Et c'est vrai que c'est un été noir la cause formelle. Vous voyez, elle avait le capuchon de la cause formelle. Vous éteignez les bougies. Cause formelle. Extraordinaire. Ça mesure. Parce que la cause formelle mesure. Eh bien la cause formelle, dans l'été noir, c'est la cause formelle qui mesure la flamme. Et quand la flamme est mesurée, c'est très cool. Cherchez un été noir. Et la cause formelle peut être un été noir, parce que la cause formelle peut être une autorité. Or, l'autorité, dans l'ordre spéculatif, peut être un tremplin ou un été noir. Alors, il faut faire attention. C'est un été noir pour ceux qui sont en opposition, et un tremplin pour ceux qui ont la foi. Alors, il ne faut pas trop vite se servir de l'autorité. Je vous dis ça, c'est très important, ça. Parce que dès qu'il y a école, il y a autorité. Tout de suite, même l'école Saint-Jean. Alors, faisons attention. Et ne soyons pas été noirs pour les autres. Rien de plus insolent. Il faut au contraire chercher, dire, mais oui, nous cherchons. Nous sommes une école de recherche. Et nous essayons de trouver. Bon, alors, regardons les quatre causalités, les quatre orientations. Et je vous disais que lorsqu'il s'agit du kels, c'est l'intelligence du tiesti. Et cette interrogation, elle est très, très, très importante, cette interrogation. Parce que, d'une certaine manière, elle est fondamentale et première. Le tiesti, c'est presque l'interrogation type. Kels. C'est important de voir ça. C'est presque l'interrogation type. Il y a le tiesti et le pose. Voilà les deux grandes interrogations type. Le pose, le comment. Et on pourrait dire que les autres sont à l'intérieur de ça. C'est pour ça qu'on Aristote dit le tiesti, quelquefois il l'emploie d'une façon précise par rapport aux autres, quelquefois il l'emploie d'une façon générale, le tiesti. Donc il faut savoir ça. Parce que c'est l'interrogation type. Alors, Parce que c'est l'interrogation type, on peut l'employer pour tout le reste. Et le pose, c'est une autre manière d'interroger. Tout à fait différent. Le comme. Vous voyez, et c'est là où joindrait tout à fait en juste compte le pourquoi et le comme. C'est vrai, d'une certaine manière, vous avez dit ça. Le pourquoi et le comme. Alors, le pourquoi, c'est l'intelligence qui veut pénétrer. Qu'est-ce que c'est? Qui veut pénétrer le plus loin possible, pas dans le pose. Dans le pot, ce n'est pas l'intelligence pénétrante. C'est l'intelligence qui fait la synthèse. Très intéressant. Dans le tiesti, c'est l'intelligence qui analyse. Mais il y a deux génies de l'intelligence. C'est très vrai, il y a deux génies de l'intelligence. Il y a l'intelligence qui analyse, et puis l'intelligence qui fait la synthèse. C'est tout à fait différent. Alors, il ne faut pas des synthèses trop hâtives. Le tout englobant. Et puis, il ne faut pas non plus trop pousser du côté de l'analyse. Vous tomberiez dans le scrupule. Il y a des intelligences scrupuleuses qui poussent l'analyse jusqu'au bout, indéfiniment, indéfiniment. Alors, à la fin, ils analysent une queue d'araignée. C'est affolant. Alors, le petit indéfiniment. Ils veulent analyser indéfiniment la chose. Alors, ça, c'est l'intelligence qui analyse le petit esti. Elle cherche la détermination radicale. La source. La source de toute détermination. C'est ça le propre de l'intelligence du TST, la source de toute détermination. Pourquoi? Parce que la première chose que je saisis quand je saisis une réalité, je saisis sa détermination. Je saisis sa forme. Toute détermination, c'est-à-dire de toute forme. Tout ce qui détermine. La forme, c'est ce qui détermine. Alors, l'intelligence du TST, j'avais dit que c'était l'intelligence liée à la vision. Parce que le propre de la vision, c'est la détermination. La vision saisit la lumière. Et c'est la lumière qui détermine. Il y a la lumière et les ténèbres. Mais ce n'est pas les ténèbres qui déterminent. C'est la lumière qui détermine. L'expérience. Hein. Quand vous êtes dans les ténèbres, tout d'un coup vous allumez la lumière. Tout détermine. Bien évident. Alors quand vous êtes au contraire dans les ténèbres, rien n'est déterminé. Et pour ça, vous pouvez taper sur n'importe quel mur, ou quelle chaise, ou quel bureau, c'est indéterminé, c'est confus. Les ténèbres maintiennent la confusion, le brouillard. Tandis que la lumière détermine. Et c'est pour ça que la vision, c'est le sens. De la lumière, donc le sens de la détermination. La vision, c'est le sens de la forme. Et c'est pour ça que la vision touche des formes sensibles, une lumière sensible, qui va orienter vers la source de toutes les déterminations et de toute lumière. Et c'est cela que l'intelligence cherche. Il y a un pli. Mon intelligence est liée à la vision. Et vous avez des visionnaires. Les prophètes sont des visionnaires. Ce sont des gens qui sont faits pour ça. Il y a des intelligences qui sont lucides, limpides, qui cherchent la lumière et qui atteignent la lumière. Alors ça, c'est l'intelligence liée au sens. Nos intelligences d'aujourd'hui sont très fortes liées à la vision, je crois, dans notre culture d'aujourd'hui. Parce qu'on peut très bien se demander, telle ou telle culture favorise tel ou tel sens. Et notre culture est une culture qui favorise la vision. Nous sommes des visionnaires. Profond. On s'arrête quelquefois aux choses purement sensibles. Parce que c'est beau, on s'arrête à ça. Mais il y a des visionnaires qui vont beaucoup plus loin. Alors, ensuite, en quoi? Je vais mettre exprès un petit peu en dessous, en ça, en quoi? Alors ça, c'est l'intelligence qui parle. intelligence qui touche. C'est autre chose, c'est pas le même mode d'analyse. Très curieux. La recherche de la cause matérielle. Voilà, c'est l'intelligence qui nous touche. L'intelligence est au toucher. Le toucher donne le sens du mur. Hein. Donne le sens de ce qui est au-delà. Ce que je ne peux pas comprendre. Ce qui s'oppose à moi. Tandis que la vision ne donne jamais le sens de ce qui s'oppose. C'est très curieux. La détermination ne s'oppose pas. La vision a une possibilité de... C'est vrai, quand on regarde l'étoile, ça ne s'oppose pas à vous. C'est le fond de temps. Tandis que le sens du toucher, c'est le sens de la baignoire. Hein. C'est quelque chose qui arrête. C'est le sol. Le sol. Ça donne de la sécurité. La terre, au flanc, parfaitement, ce qui donne de la sécurité. Et c'est vrai que ça donne de la sécurité. La vision ne donne pas la sécurité, ça donne la précision. Alors, la précision peut aider à la sécurité. Mais l'interrogation en toi, c'est une intelligence qui cherche, par le point de vue du toucher, l'intelligence liée au toucher, qui cherche la stabilité. La stabilité. Ce qui stabilise. Ce sur quoi je peux m'appuyer. Je m'appuie sur quelque chose de fondamental. Le sens du roc, c'est vrai, ça c'est touché. C'est pas du tout la vision. Sens du roc, le sens du mur. Au fond, ça fait partie de la philosophie, le mur. Hein. Quelque chose qui ne peut pas aller plus loin. Alors ça peut être aussi terriblement le sens de la limite. C'est vrai, le mur limite. Le roc limite, ça stabilise, mais ça limite aussi. Alors il y a le roc qui stabilise et le mur qui limite. Il serait intéressant de voir que de fait, il y a les deux dans le sens du toucher. Alors certains sont beaucoup plus affectivement orientés vers le roc et d'autres vers le mur. Ce serait intéressant de voir ça. Vous voyez, affectivement. Des gens qui sont très sensibilisés par le sens de la prison, pas supporter le mur. Hein. Je suis emprisonné. Alors on a à ce moment-là une affectivité terrible qui ne peut plus. Je connais des gens qui ne peuvent pas entrer dans un trou. Ils n'en peuvent pas y sortir. Là, c'est évident. Ils entrent dedans. C'est une grotte. Une fois que vous êtes dedans. Non, ça, c'est le sens du mur. Et ça donne des paniques, des phobies. Et des phobies comme ça. Une phobie du mur. Qui sont des points de vue de la limite, de la prison. D'où ça vient le sens de la prison? C'est en quoi? C'est pas du tout la lumière. La lumière, c'est pas du tout le sens de la vie de la prison. C'est tout à fait autre chose. C'est très complémentaire, ces deux aspects-là. Vous voyez que l'intelligence est liée au sens, et donc elle a ce fait de sentir très profondément quelque chose qui ouvre profondément, puis alors au contraire, en quoi je m'enracine. La stabilité, mais aussi la limite, je ne pourrais pas en sortir. C'est curieux, ça. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il faut essayer, vous voyez, que ces interrogations ne soient pas trop hein, scolastiques. Il faut les reprendre dans leur origine profonde. Et les reprendre dans leur origine profonde, c'est saisir ce pli de l'intelligence. Notre intelligence est liée aux sensations et elle veut creuser la réalité. Dans la réalité, il y a ces différentes orientations. Alors, c'est une cause enveloppante. Une cause enveloppante. Mais en même temps, c'est la limite. Et c'est vrai, c'est la stabilité. C'est ça la cause matérielle. La cause, l'origine, c'est le point de vue de l'intelligence qui a un très grand sens du mouvement. ça vient. C'est parce que je crois que c'est Louis qui est très lié à la cause, au panier d'Orger. Ça sera intéressant, c'est le rythme. Les gens qui ont le sens du rythme. Il y a des gens qui n'ont pas le sens du rythme. Le sens du rythme. La réalité implique un certain rythme profond, un certain mouvement, un certain devenir. Le sens du mouvement, si vous êtes en face du mouvement, cherchez d'où ça vient. Donc c'est l'intelligence liée au mouvement, aux choses qui passent, aux choses qui... Et on cherche le point de vue de l'origine de ce mouvement, d'où ça vient. Alors, pas la stabilité, c'est pas la source de toute détermination, c'est autre chose. Pas comme là, c'est plus difficile à savoir. Alors, on dit l'origine, je peux remettre l'origine ici, si vous voulez, vous avez à dire, c'est ça. L'interrogation, c'est tout, c'est l'origine que je cherche. L'origine n'est pas la stabilité, l'origine n'est pas la détermination. L'origine, c'est quelque chose d'extrinsèque. Extérieur. Mais c'est pas un mur. C'est pas le point de vue c'est pas le point de vue qui limite de l'extérieur. C'est au contraire quelque chose qui permet une continuité. L'origine extérieure, la continuité. Il y en a deux dans le point de vue de quand on cherche l'origine, Louis. C'est à la fois quelque chose qui va se prolonger dans l'eau. Il y a l'idée de prolongement et de continuité. Il y a un prolongement. Et puis en même temps, quelque chose d'autre. Il y a les deux. Donc, on peut dire l'idée de prolongement. L'intelligence qui cherche la continuité. La continuité n'est ni de l'ordre de la lumière, ni de l'ordre de la matière. C'est autre chose. Les gens qui ont un sens, une continuité immanente. Et alors, enfin, vous avez le point de vue en vue de quoi. Mettez-le ici, de plus encore, si vous voulez avoir le décalage. Parce que en vue de quoi va rejoindre le casse. D'une certaine manière, le casse et l'en vue de quoi ont la même extension. Ce sont les deux interrogations les plus étendues. C'est pour ça que Aristote dira que le qu'est-ce et le en vue de quoi s'étend à l'être. Et le d'où et le en quoi s'étend au devenir. Il y a deux interrogations propres à l'être et deux interrogations propres au devenir. Alors vous comprenez bien que les interrogations propres au devenir peuvent impliquer celles de l'être, mais celles de l'être n'impliquent pas celles du devenir. Ça, c'est quand même très organique de saisir ça. Et c'est très intéressant de sentir qu'il y a des interrogations qui caractérisent ce qui est, proprement dit, les deux extrêmes. Qu'est-ce en vue de quoi ? Et d'autres qui caractérisent le devenir, le mouvement. Une réalité qui est en mouvement, on cherche l'origine. Une réalité qui est en mouvement, on cherche son fondement. Donc, on cherche en quoi elle est. Tandis que vous ne pouvez pas vous poser la question « En quoi est l'être ?» Posez-vous la question, hein. Mais ne cherchez pas trop longtemps, parce que vous viendriez complètement fou. « En quoi est l'être ?» Ben, il est en l'être. « En quoi est l'être ?» Parce que vous voudriez trouver quelque chose de plus fondamental que l'être. Alors, « En quoi est l'être ?» Vous avez la réponse d'Averroès et de l'énigme. Ben, tous les deux, on donne la même réponse, la matière. Alors, je ne peux pas dire ça. L'être est plus radical que la matière. Donc, en quoi est l'être ? Pas de réponse. C'est très très joli de dire ça. Pour montrer la limite de l'interrogation, en quoi est l'être ? D'où est l'être ? Pas de réponse. Parménide l'a dit avec farouchement. Il est. Et du fait qu'il est, il n'a pas d'origine. Parce que s'il avait une origine, il impliquerait le devenir. Donc, il est n'implique pas de cause efficiente. Pas d'origine, en quoi. C'est assez beau, du reste, de saisir que l'être, il n'y a que deux perspectives. Alors que toutes les réalités qui sont en mouvement, quatre perspectives. Une fois qu'on a saisi ça, on a déjà saisi comment l'intelligence est faite pour quelque chose de radical, l'être, et au-delà du devenir. Alors, en vue de quoi ? C'est l'intelligence liée à l'odorat. C'est très curieux. L'odorat nous donne le sens de la piste. Vous voyez, le chien qui cherche, hein ? Il cherche, il faut le voir. Il ne rate pas le coup, hein, pour saisir l'odorat. Je veux dire, l'odorat, c'est lié à l'intelligence, va nous donner le sens de, en vue de quoi, le but. Le but, c'est la fin, l'achèvement. Ce qui est du petit. C'est l'intelligence, donc c'est plus le mouvement ici. Les deux, ça c'est le fondement. L'intelligence est liée donc à l'odorat. C'est très curieux. On dit aujourd'hui que toutes les civilisations, plus elles sont civilisées, plus le sens de l'odorat disparaît. Très étonnant. Ça c'est une constatation. C'est pas un a priori, c'est une constatation. C'est intéressant de voir que dans une civilisation technique, on dit civilisée, c'est-à-dire technique, hein, comprenez bien. Donc, dans une civilisation où la technique l'emporte et où la technique devient de plus en plus forte, c'est le sens de l'ouïe et le sens de l'origine qui domine. C'est le sens de l'ouïe, l'origine et le sens de l'esprit. Et le toucher, et l'odorat disparaît. Maintenant que le toucher disparaît, parce qu'on parle des motifs, hein. Alors, il y a une atrophie du toucher, dans des cas. Une atrophie du toucher. Quand t'es à la psy ou un pied nu, le toucher était toujours en acte. Le toucher, c'est le froid et le chaud. Un climat climatisé. Sans odeur. Absolument climatisé. Il y a l'odeur de la climatisation. Parce qu'il y a une odeur particulière de la climatisation. Et l'odeur de la climatisation fait qu'il n'y a plus d'odeur. Alors, quand je parle de vous-même, le sens de la finalité et le sens de l'interrogation. Vous voyez, le sens de la finalité et le sens de la matière disparaissent. C'est très curieux. Ça, c'est des causalités qui se lient entre elles. De voir ces liens entre la cause matérielle et la cause finale. Il y a des liens entre les deux. Il y a des liens entre l'origine et la cause formelle. Des disparitions. Donc, il faut réfléchir là-dessus. Ça fait partie des interrogations, ça fait partie d'une intelligence incarnée qui est liée par les sens et qui par la recherche. Puis alors, vous avez une cinquième interrogation, un cinquième rôle du char. Sur le modèle de quoi ? C'est vrai, l'intelligence peut très bien interroger de cette manière-là. Sur le modèle de quoi ? C'est une intelligence qui cherche l'archétype, l'exemplaire, qui cherche la mesure. Extrinsèque. L'achèvement ultime qui peut être extrinsèque. C'est en ce sens-là qu'on dira qu'il y a trois causalités extrinsèques. La causalité exemplaire, la causalité finale, la causalité de l'origine. Trois causalités extrinsèques. Et deux causalités immanentes. Le point de vue de la lumière et le point de vue du toucher. Vous voyez, comme les causalités se couchent, se tiennent les unes par rapport aux autres, et que les liens avec les causalités ne sont pas toujours les mêmes. C'est très intéressant à voir. il y a bien saisi. Alors, le comment, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. C'est l'intelligence créatrice qui doit avoir le comment, la créativité. Comment votre... Alors, c'est la dernière causalité, c'est plus une causalité d'analyse. Toutes celles-là étaient des interrogations qui voulaient analyser. Qui voulaient analyser d'une façon immanente, et d'une manière de façon extrinsèque. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit du comment, l'intelligence n'analyse plus. L'intelligence cherche les rapports. On cherche les rapports, les liens. C'est vrai que l'intelligence cherche les liens et les rapports. Mais elle cherche les liens et les rapports pour pouvoir composer et reformer un. C'est l'intelligence attirée par le tout, l'intelligence du comment. Elle a commencé par le tout et elle veut retourner au tout. C'est le tout, les ensembles. C'est l'intelligence du comment. C'est plus l'intelligence qui analyse. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quatre manières d'analyser. Et ça, ça peut vous servir énormément pour n'importe quelle dissertation. C'est le grand système pour analyser. Quand vous analysez, mais posez-vous ces questions-là, et vous allez tout de suite trouver. Et alors, ça vous donne une possibilité d'aller. Mais commencez pas par le comment, vous n'analyserez pas. Vous pouvez décrire par le comment. Alors, si vous êtes très fort en description, prenez le comment. Mais si vous êtes fort en analyse et vous l'allez, prenez ces analyses. Ces cinq manières d'analyser.